Honoré de Balzac, Modeste Mignon, à une étrangère, fille d'une terre esclave, ange par l'amour, démon par la fantaisie, enfant par la foi, vieillard par l'expérience, homme par le cerveau, femme par le cœur, géant par l'espérance, mère par la douleur et poète par tes rêves, à toi qui es encore la beauté, cet ouvrage où ton amour et ta fantaisie, ta foi, ton expérience, ta douleur, ton espoir et tes rêves sont comme les chaînes qui soutiennent une trame moins brillante que la poésie gardée dans ton âme et dont les expressions visibles sont comme ces caractères d'un langage perdu qui préoccupent les savants. De Balzac. Vers le milieu du mois d'août 1829, M. Simon Babylas Latournelle, un notaire, montait du Havre à Ingouville, bras dessus bras dessous avec son fils, et accompagné de sa femme, près de laquelle allait, comme un page, le premier clerc de l'étude, un petit bossu nommé Jean Butachat. Quand ces quatre personnages, dont deux au moins faisaient ce chemin tous les soirs, arrivèrent au coude de la route qui tourne sur elle-même comme celle que les Italiens appellent des corniches, le notaire examina, si personne ne pouvait l'écouter du haut d'une terrasse, en arrière ou en avant d'eux, et il prit le médium de sa voix par excès de précaution. « Exupère, dit-il à son fils, tâche d'exécuter avec intelligence la petite manœuvre que je vais t'indiquer, et sans en rechercher le sens. Mais si tu le devines, je t'ordonne de le jeter dans ce Styx que tout notaire ou tout homme qui se destine à la magistrature doit avoir en lui-même pour les secrets d'autrui. Après avoir présenté tes respects, tes devoirs et tes hommages à Madame et Mademoiselle Mignon, à Monsieur et Madame Dumay et à Monsieur Gobenheim, s'il est au chalet, quand le silence sera établi, Monsieur Dumay te prendra dans un coin. Tu regarderas avec curiosité, oh, je te le permets, Mademoiselle Modeste, pendant tout le temps qu'il te parlera. Mon digne ami te priera de sortir et d'aller te promener pour entrer au bout d'une heure environ sur les 9 heures, d'un air empressé. Tâche alors d'imiter la respiration d'un homme essoufflé, puis tu lui diras à l'oreille, tout bas, et néanmoins de manière à ce que Mademoiselle Modeste t'entende, « Le jeune homme arrive !» Exupère devait partir le lendemain pour Paris, y commencer son droit. Ce prochain départ avait décidé Latournelle à proposer à son ami Dumay, son fils, pour complice de l'importante conspiration que cet ordre peut faire entrevoir. Est-ce que Mademoiselle Modeste serait soupçonnée d'avoir une intrigue ? Demanda Butachat d'une voix timide à sa patronne. Chut, Butachat, répondit Madame Latournelle en reprenant le bras de son mari. Madame Latournelle, fille du greffier du tribunal de première instance, se trouve suffisamment autorisée par sa naissance à se dire issue d'une famille parlementaire. Cette prétention indique déjà pourquoi cette femme, un peu trop couperosée, tâche de se donner la majesté du tribunal dont les jugements sont griffonnés par monsieur son père. Elle prend du tabac, se tient roide comme un pieu, se pose en femme considérable et ressemble parfaitement à une momie à laquelle le galvanisme aurait rendu la vie pour un instant. Elle essaie de donner des tons aristocratiques à sa voix aigre, mais elle n'y réussit pas plus qu'à couvrir son défaut d'instruction. Son utilité sociale semble incontestable à voir les bonnets armés de fleurs qu'elle porte, les tours tapées sur ses tempes et les robes qu'elle choisit. Où les marchands placeraient-ils ces produits s'il n'existait pas des Madame Latournelle ? Tous les ridicules de cette digne femme, essentiellement charitable et pieuse, eussent peut-être passé presque inaperçus, mais la nature, qui plaisante parfois en lâchant de ses créations falotes, l'a douée d'une taille de tambour major, afin de mettre en lumière les inventions de cet esprit provincial. Elle n'est jamais sortie du Havre, elle croit en l'infaillibilité du Havre, elle l'achète tout au Havre, elle s'y fait habiller. Elle se dit normande jusqu'au bout des ongles. Elle vénère son père et adore son mari. Le petit Latournelle eut l'hardiesse d'épouser cette fille arrivée à l'âge antimatrimonial de 33 ans et sut en avoir un fils. Comme il eut obtenu partout ailleurs les 60 000 francs de dot donnés par le greffier, on attribua son intrépidité, pour peu commune, au désir d'éviter l'invasion du Minotaure, de laquelle ses moyens personnels l'eussent difficilement garanti s'il n'avait eu la prudence de mettre le feu chez lui en y mettant une jeune et jolie femme. Le notaire avait tout bonnement reconnu les grandes qualités de mademoiselle Agnès. Elle se nommait Agnès, et remarquez combien la beauté d'une femme passe promptement pour un mari. Quant à ce jeune homme insignifiant à qui le greffier imposa son nom normand sur les fonds, madame Latournelle est encore si surprise d'être devenue mère à 35 ans 7 mois qu'elle se retrouverait des mamelles et du lait pour lui, s'il le fallait, seule hyperbole qui puisse peindre sa folle maternité. « Comme il est beau, mon fils !» disait-elle à sa petite amie modeste en le lui montrant, sans aucune arrière-pensée, quand elles allaient à la messe et que son bel Eugène marchait en avant. « Il vous ressemble, » répondait Modeste Mignon, comme elle aurait dit, « quel vilain temps !» La silhouette de ce personnage, très accessoire, paraîtra nécessaire en disant que madame Latournelle était depuis environ 3 ans le chaperon de la jeune fille à laquelle le notaire et Dumais, son ami, voulaient tendre de ces pièges appelés souricières dans la physiologie du mariage. Quant à Latournelle, figurez-vous un bon petit homme, aussi rusé que la probité la plus pure le permet, et que tout étranger prendrait pour un fripon à voir l'étrange physionomie à laquelle le Havre s'était habitué. Une vue dite tendre force le digne notaire à porter des lunettes vertes pour conserver ses yeux constamment rouges. Chaque arcade sourcilière, ornée d'un duvet assez rare, dépasse d'une ligne environ l'écaille brune du verre en en doublant en quelque sorte le cercle. Si vous n'avez pas observé déjà sur la figure de quelques passants l'effet produit par ces deux circonférences superposées et séparées par un vide, vous ne sauriez imaginer combien un pareil visage vous intrigue. Surtout quand ce visage, pâle et creusé, se termine en pointe comme celui de Méphistophélès, que les peintres ont copié sur le masque des chats, car telle est la ressemblance offerte par Babylas Latournelle. Au-dessus de ces atroces lunettes vertes s'élève un crâne dénudé, d'autant plus artificieux que la perruque, en apparence douée de remouvement, à la discrétion de laisser passer des cheveux blancs de tous côtés et coupe toujours le front inégalement. En voyant cet estimable Normand vêtu de noir comme un coléoptère, monté sur ses deux jambes comme sur deux épingles, et le sachant le plus honnête homme du monde, on cherche sans la trouver la raison de ses contresens physiognomiques. Jean Butcha, pauvre enfant naturel abandonné, de qui le greffier Labrosse et sa fille avaient pris soin, devenu premier chair à force de travail, logé, nourri chez son patron qui lui donne 900 francs d'appointement, sans aucun semblant de jeunesse, presque nain, faisait de Modeste une idole. Il eût donné sa vie pour elle. Ce pauvre être dont les yeux semblables à deux lumières de canon sont pressés entre des paupières épaisses, marqué de la petite vérole, écrasé par une chevelure crépue, embarrassé de ses mains énormes, vivait sous les regards de la pitié depuis l'âge de 7 ans. Ceci ne se peut-il pas vous l'expliquer tout entier? Silencieux, recueilli, d'une conduite exemplaire, religieux, il voyageait dans l'immense étendue du pays appelé sur la carte de Tendre. L'amour sans espoir, les steppes arides et sublimes du désir. Modeste avait surnommé ce grotesque premier clerc le nain mystérieux. Ce sobriquet fit lire à Butcha le roman de Walter Scott et lit à Modeste: « Voulez-vous pour le jour du danger, une rose de votre main mystérieuse ?» Modeste refoula soudain l'âme de son adorateur dans sa cabane de boue par un de ces regards terribles que les jeunes filles jettent aux hommes qui ne leur plaisent pas. Moussa se surnommait lui-même le clerc obscur, sans savoir que ce calembour remonte à l'origine du Panonceau. Mais il n'était, de même que sa patronne, jamais sorti du Havre. Peut-être est-il nécessaire, dans l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas le Havre, d'en dire un mot en expliquant où se rendait la famille Latournelle, car le premier clerc y est évidemment inféodé. Ingouville est au Havre ce que Montmartre est à Paris. Une haute colline au pied de laquelle la ville s'étale, à cette différence près que la mer et la Seine entourent la ville et la colline, et que le Havre se voit fatalement circonscrit par d'étroites fortifications, et qu'enfin l'embouchure du fleuve, le port, les bassins, présentent un spectacle tout autre que celui des 50 000 maisons de Paris. Au bas de Montmartre, un océan d'ardoises montre ses lames bleues figées. À Ingouville, on voit comme des toits mobiles agités par les vents. Cette éminence qui, depuis Rouen jusqu'à la mer, côtoie le fleuve en laissant une marge plus ou moins resserrée entre elle et les eaux, mais qui certes contient les trésors de pittoresque avec ses villes, ses gorges, ses vallons et ses prairies, acquit une immense valeur à Ingouville depuis 1816, époque à laquelle commença la prospérité du Havre. Cette commune devint l'Auteuil, la ville d'Avrel, Montmorency, des commerçants qui se bâtirent des villas, étagées sur cet amphithéâtre, pour y respirer l'air de la mer parfumé par les fleurs de leurs somptueux jardins. Ces hardis spéculateurs s'y reposent des fatigues de leurs comptoirs et de l'atmosphère de leurs maisons serrées les unes contre les autres, sans espace, souvent sans cour, comme les fonds et l'accroissement de la population du Havre et la ligne inflexible de ses remparts et l'agrandissement des bassins. En effet, quelle tristesse au cœur du Havre et quelle joie à Ingouville! La loi du développement social a fait éclore, comme à Champignon, le faubourg de Graville, aujourd'hui plus considérable que le Havre et qui s'étend au bas de la côte comme un serpent. À la crête, Ingouville n'a qu'une vue. Et comme dans toutes ses positions, les maisons qui regardent la Seine ont nécessairement un immense avantage sur celles de l'autre côté du chemin auquel elles masquent cette vue, mais qui se dressent comme des spectateurs sur la pointe des pieds afin de voir par-dessus les toits. Néanmoins, il existe là, comme partout, des servitudes. Quelques maisons assises au sommet occupent une position supérieure ou jouissent d'un droit de vue qui oblige le voisin à tenir ses constructions à une hauteur voulue. Puis la roche capricieuse est creusée par des chemins qui rendent son amphithéâtre praticable. Et par ces échappées, quelques propriétés peuvent apercevoir ou la ville, ou le fleuve, ou la mer. Sans être coupée à pic, la colline finit assez brusquement en falaise. Au bout de la rue, qui serpente au sommet, on aperçoit les gorges où sont situés quelques villages. Sainte adresse, deux ou trois saints je ne sais qui, et les criques où mugit l'océan. Ce côté presque désert d'Ingouville forme un contraste frappant avec les belles villas qui regardent la vallée de la Seine. Craint-on les coups de vent pour la végétation? Les négociants reculent-ils devant les dépenses qu'exigent ces terrains en pente? Quoi qu'il en soit, le touriste des bateaux à vapeur est surtout étonné de trouver la côte nue et ravinée à l'ouest d'Ingouville, un pauvre en haillon à côté d'un riche, somptueusement vêtu, parfumé. En 1829, une des dernières maisons du côté de la mer, et qui se trouve sans doute au milieu de l'Ingouville d'aujourd'hui, s'appelait et s'appelle peut-être encore le Chalet. Ce fut primitivement une habitation de concierge avec son jardinet en avant. Le propriétaire de la villa dont elle dépendait, maison à parc, à jardin, à volière, à serre, à prairie, Il a fantaisie de mettre cette maisonnette en harmonie avec les somptueuses idées de sa demeure et l'a fait reconstruire sur le modèle d'un cottage. Il sépara ce cottage de sa villa par une muraille basse le long de laquelle il planta une haie pour la cacher. Derrière le cottage, nommé, malgré tous ses efforts, le chalet, s'étendent les potagers et les vergers. Ce chalet, sans vaches ni laiterie, a pour toute clôture sur le chemin un palis dont les charniers ne se voient plus sous une haie luxuriante. De l'autre côté du chemin, la maison d'en face, soumise à une servitude, offre un palis et une haie semblables qui laissent la vue du Havre au chalet. Cette maisonnette faisait le désespoir de M. Vilquin, propriétaire de la villa. Voici pourquoi. Le créateur de ce séjour, dont les détails disent énergiquement « si reluisent des millions », n'avait si bien entendu son parc vers la campagne que pour ne pas avoir ses jardiniers, disait-il, dans ses poches. Une fois fini, le chalet ne pouvait plus être habité que par un ami. Monsieur Mignon, le précédent propriétaire, aimait beaucoup son caissier, et cette histoire prouvera que Dumay la lui rendait bien. Il lui offrit donc cette habitation. À cheval sur la forme, Dumay fit signer à son patron un bail de 12 ans à 300 francs de loyer, et Monsieur Mignon le signa volontiers en disant « Mon cher Dumay, songe-y, tu t'engages à vivre 12 ans chez moi. » Par des événements qui vont être racontés, les propriétés de Monsieur Mignon, autrefois le plus riche négociant du Havre, furent vendues à Vilquin, l'un de ses antagonistes sur la place. Mais dans la joie de s'emparer de la célèbre villa Mignon, l'acquéreur oublia de demander la résiliation de ce bail. Dumay, pour ne pas faire manquer la vente, aurait alors signé tout ce que Vilquin eût exigé. Mais une fois la vente consommée, il tint à son bail comme à une vengeance. Il resta dans la poche de Vilquin, au cœur de la famille Vilquin, observant Vilquin, gênant Vilquin, enfin le talon des Vilquin. Tous les matins, à sa fenêtre, Vilquin éprouvait un mouvement de contrariété violente en apercevant ce bijou de construction, ce chalet qui coûta 60 000 francs et qui scintille comme un rubis au soleil. Comparaison presque juste. L'architecte a bâti ce cottage en briques du plus beau rouge rejointoyé en blanc. Les fenêtres sont peintes en vert vif et les bois en brun tirant sur le jaune. Le toit s'avance de plusieurs pieds. Une jolie galerie découpée règne au premier étage et une véranda projette sa cage de verre au milieu de la façade. Le rez-de-chaussée se compose d'un joli salon, d'une salle à manger, séparée par le palier d'un escalier en bois, dont le dessin et les ornements sont d'une élégante simplicité. La cuisine est adossée à la salle à manger et le salon est doublé d'un cabinet qui servait alors de chambre à coucher à monsieur et madame Dumay. Au premier étage, l'architecte a aménagé 2 grandes chambres accompagnées chacune d'un cabinet de toilette auquel la véranda sert de salon. Puis au-dessus se trouve, sous le faîte qui ressemble à 2 cartes mises l'une contre l'autre, 2 chambres de domestiques éclairées chacune par un œil de bœuf et mansardée, mais assez spacieuse. Vilquin eut la petitesse d'élever un mur du côté des vergers et des potagers. Et depuis cette vengeance, les quelques centiards que le bail laisse au Châtelet ressemblent à un jardin de Paris. Les communs bâtis et peints de manière à les raccorder au chalet, sont adossés au mur de la propriété voisine. L'intérieur de cette charmante habitation est en harmonie avec l'extérieur. Le salon, parquetté tout en bois de fer, offre au regard les merveilles d'une peinture imitant les lacs de Chine. Sur les fonds noirs encadrés d'or brillent les oiseaux multicolores, les feuillages verts impossibles et fantastiques dessins des Chinois. La salle à manger est entièrement revêtue en bois du Nord découpé, sculpté comme dans les belles cabanes russes. La petite antichambre, formée par le palier et la cage de l'escalier, sont peintes en vieux bois et représentent des ornements gothiques. Les chambres à coucher, tendues de perse, se recommandent par une coûteuse simplicité. Le cabinet où couchaient alors le caissier et sa femme est boisé, plafonné comme la chambre d'un paquebot. Ces folies d'armateur expliquent la rage de Vilquin. Ce pauvre acquéreur voulait loger dans ce cottage son gendre et sa fille. Ce projet connu de Dumay pourra plus tard vous expliquer sa ténacité bretonne. On entre au chalet par une petite porte en fer, treillissée, et dont les fers de lance s'élèvent de quelques pouces au-dessus des palis et de la haie. Le jardinier, d'une largeur égale à celle du fastueux boulingrin, était alors plein de fleurs, de roses, de dahlias, des plus belles et des plus rares productions de la flore des serres. Car, autre sujet de douleur vilquinarde, la petite serre élégante, la serre de fantaisie, la serre dite de madame, dépend du Châtelet et sépare la villa Vilquin, ou, si vous voulez, l'unit au cottage. Dumay se consolait de la tenue de sa caisse par les soins de la serre, dont les productions exotiques faisaient un déplaisir de Modeste. Le billard de la villa Vilquin, espèce de galerie, communiquait autrefois par une immense volière en forme de tourelle avec cette serre. Mais, depuis la construction du mur, qui le priva de la vue des vergers, Dumay mura la porte de communication. Mur pour mur, dit-il. Ah, vous et Dumay, vous murmurez, dit à Vilquin, les négociants pour le taquiner. Et tous les jours à la bourse ont salué d'un nouveau calembour le spéculateur jalousé. En 1827, Vilquin offrit à Dumay 6 000 francs d'appointement et 10 000 francs d'indemnité pour résilier le bail. Le caissier refusa. Quoiqu'il n'eût que 1 000 écus chez Guggenheim, un ancien commis de son patron. Dumay, croyez-le, est un breton repiqué par le sort en Normandie. Jugé de la haine conçue contre ses locataires du chalet par le Normand Vilquin, un homme riche de 3 millions. Quel crime de lèse-million que de démontrer aux riches l'impuissance de l'or. Vilquin, dont le désespoir le rendait la fable du Havre, venait de proposer une jolie habitation en toute propriété à Dumay, qui de nouveau refusa. Le Havre commençait à s'inquiéter de cet entêtement dont, pour beaucoup de gens, la raison se trouvait dans cette phrase « Dumay breton ». Le caissier, lui, pensait que madame et surtout mademoiselle Mignon eussent été trop mal logées partout ailleurs. Ces deux idoles habitaient un temple digne d'elles. Ils profitaient du moins de cette somptueuse chaumière où des rois déchus auraient pu conserver la majesté des choses autour d'eux, espèce de décorum qui manque souvent aux gens tombés. Peut-être ne regrettera-t-on pas d'avoir connu par avance et l'habitation et la compagnie habituelle de Modeste, car à son âge, les êtres et les choses ont sur l'avenir autant d'influence que le caractère, si toutefois le caractère n'en soit pas quelques empreintes ineffaçables. À la manière dont les Latournelle entrèrent au chalet, un étranger aurait bien deviné qu'ils y venaient tous les soirs. « Déjà, mon maître, » dit le notaire en apercevant dans le salon un jeune banquier du Havre, Guggenheim, parent de Guggenheim Keller, chef de la grande maison de Paris. Ce jeune homme a un visage livide, un de ces blonds aux yeux noirs, dont le regard immobile a je ne sais quoi de fascinant, aussi sobre dans sa parole que dans le vivre, vêtu de noir, maigre comme un phtisique, mais vigoureusement charpenté, cultivait la famille de son ancien patron et la maison de son caissier, beaucoup moins par affection que par calcul. On y jouait le whist à 2 sous l'affiche. une mise soignée n'était pas de rigueur. Il acceptait que des verres d'eau sucrée et n'ayant vécu aucune politesse à rendre en échange. Cette apparence de dévouement au mignon laissait croire que Gobenheim avait du cœur et le dispensait d'aller dans le grand monde du Havre, d'y faire des dépenses inutiles, de déranger l'économie de sa vie domestique. Ce catéchumène du Vaudor se couchait tous les soirs à 6h30 et se levait à 5h du matin. Enfin, sûr de la discrétion de Latournelle et de Le Bouchat, Gobenheim pouvait analyser devant eux les affaires épineuses, les soumettre aux consultations gratuites du notaire et réduire les cancans de la place à leur juste valeur. Cet apprenti Gobor, mot de Boucha, appartenait à cette nature de substance que la chimie appelle absorbante. Depuis la catastrophe arrivée à la maison Mignon, où les Keller le mirent en pension pour apprendre le haut commerce maritime, personne au chalet ne l'avait prié de faire quoi que ce soit, pas même une simple commission. Sa réponse était connue. Ce garçon regardait Modeste comme aurait examiné une lithographie à deux sous. « C'est l'un des pistons de l'immense machine appelée commerce, » disait de lui le pauvre Boucha, dont l'esprit se trahissait par de petits mots timidement lancés. Les quatre Latournelle saluèrent avec la plus respectueuse déférence une vieille dame vêtue en velours noir qui ne se leva pas du fauteuil où elle était assise, car ses deux yeux étaient couverts de la taille jaune produite par la cataracte. Bon, Madame Mignon se rappât en une seule phrase. Elle attirait aussitôt le regard par le visage auguste des mères de famille dont la vie sans reproche défie les coups du destin, mais qu'il a pris pour but de ses flèches et qui forme la nombreuse tribu des Niobés. Sa perruque ronde, bien frisée, bien mise, seyait à sa blanche figure roidie, comme celle de ces femmes de Bourmestre peintes par Holbein. Le soin excessif de sa toilette, des bottines de velours, une collerette de dentelle, châle mis droit, tout attestait la sollicitude de Modeste pour sa mère. Quand le moment de silence annoncé par le notaire fut établi dans ce joli salon, Modeste, assise près de sa mère et brodant pour elle un fichu, devint pendant un instant le point de mire des regards. Cette curiosité, cachée sous des interrogations vulgaires que s'adressent tous les gens en visite, et même ceux qui se voient chaque jour, eut trahi le complot domestique médité contre la jeune fille à un indifférent. Mais Gobenheim, plus qu'indifférent, ne remarqua rien. Il alluma les bougies de la table à jouer. L'attitude de Dumère rendit cette situation terrible pour Boucha, pour les Latournelle et surtout pour Madame Dumay, qui savait son mari capable de tirer, comme sur un chien enragé, sur l'amant de Modeste. Après le dîner, le caissier était allé se promener, suivi de deux magnifiques chiens des Pyrénées soupçonnés de trahison, et qu'il avait laissés chez un ancien métayer de M. Mignon. Puis, quelques instants avant l'entrée des Latournelle, il avait pris à son chevet ses pistolets et les avait posés sur la cheminée en se cachant de Modeste. La jeune fille ne fit aucune attention à tous ces préparatifs, au moins singuliers. Quoi, que petit, trapu, grêlé, parlant tout bas, ayant l'air de s'écouter, ce Breton, ancien lieutenant de la garde, offre la résolution, le sang-froid, si bien gravé sur son visage que personne en 20 ans à l'armée ne l'avait plaisanté. Ses petits yeux d'un bleu calme ressemblent à deux morceaux d'acier. Ses façons ont l'air de son visage, son parler, sa tenue, tout concorde à son nom bref de Dumay. Sa force, bien connue d'ailleurs, lui permet de ne redouter aucune agression. Capable de tuer un homme d'un coup de poing, il avait accompli ce haut fait à Bautzen en s'y trouvant sans armes face à face avec un Saxon en arrière de sa compagnie. En ce moment, la ferme et douce physionomie de cet homme atteignit au sublime du tragique. Ses lèvres pâles comme son teint indiquèrent une convulsion domptée par l'énergie bretonne. Une sueur légère, mais que chacun vit et supposa froide, rendit son front humide. Le notaire, son ami, savait que de tout ceci pouvait résulter un drame en cour d'assises. En effet, pour le caissier, il se jouait à propos de Modeste Mignon une partie où se trouvait engagé un honneur, une foi, des sentiments d'une importance supérieure à celle des liens sociaux et résultant d'un de ces pactes dont le seul juge, en cas de malheur, est au ciel. La plupart des drames sont dans les idées que nous nous formons des choses. Les événements qui nous paraissent dramatiques ne sont que les sujets que notre âme convertit en tragédie ou en comédie au gré de notre caractère. Madame Latournelle et Madame Dumay, chargées d'observer Modeste, eurent je ne sais quoi d'emprunter dans le maintien, de tremblant dans la voix, que l'inculpée ne remarqua point tant elle paraissait absorbée par sa broderie. Modeste plaquait chaque fil de coton avec une perfection à désespérer des brodeuses. Son visage disait tout le plaisir que lui causait le mat du pétale qui finissait une fleur entreprise. Le nain, assis entre sa patronne et Guggenheim, retenait ses larmes. Il se demandait comment arriver à Modeste afin de lui jeter deux mots d'avis à l'oreille. En prenant position devant Madame Mignon, Madame Latournelle avait, avec sa diabolique intelligence de dévote, isolé Modeste. Madame Mignon, silencieuse dans sa cécité, plus pâle que ne la faisait sa pâleur habituelle, disait assez qu'elle savait l'épreuve à laquelle Modeste allait être soumise. Peut-être au dernier moment blâmait-elle ce stratagème, tout en le trouvant nécessaire. De là, son silence, elle pleurait en dedans. Exupère, la détente du piège, ignorait entièrement la pièce où le hasard lui donnait un rôle. Guggenheim restait, par un effet de son caractère, dans une insouciance égale à celle que montrait Modeste. Pour un spectateur instruit, ce contraste entre la complète ignorance des uns et la palpitante attention des autres eût été sublime. Aujourd'hui, plus que jamais, les romanciers disposent de ces effets, et ils sont dans leurs droits, car la nature s'est de tout temps permis d'être plus forte qu'eux. Ici, la nature, vous le verrez, la nature sociale, qui est une nature dans la nature, se donnait le plaisir de faire l'histoire plus intéressante que le roman, de même que les torrents dessinent des fantaisies interdites aux peintres et accomplissent des tours de force en disposant ou léchant les pierres à surprendre les statuaires et les architectes. Il était 8 heures. En cette saison, le crépuscule jette alors ses dernières lueurs. Ce soir-là, le ciel n'offrait pas un nuage, l'air attiédi caressait la terre, les fleurs embaumaient, on entendait crier le sable sous les pieds de quelques promeneurs qui rentraient. La mer reluisait comme un miroir. Enfin, il faisait si peu de vent que les bougies allumées sur la table à jouer montraient leurs flammes tranquilles, quoique les croisées fussent ouvertes. Ce salon, cette soirée, cette habitation, quel cadre pour le portrait de cette jeune fille, étudiée alors par ces personnages avec la profonde attention d'un peintre en présence de la Margherita Doni, l'une des gloires du Palais Pitti. Modeste, fleur enfermée comme celle de Catulle, valait-elle encore toutes ses précautions? Bon, vous connaissez la cage, voici l'oiseau. Alors âgée de 20 ans, svelte, fine autant qu'une de ces sirènes inventées par les dessinateurs anglais pour leurs livres de beauté, Modeste offre, comme autrefois sa mère, une coquette expression de cette grâce peu comprise en France, où nous l'appelons sensiblerie, mais qui chez les Allemandes et la poésie du cœur arrivée à la surface de l'être et s'épanchant en minauderie chez les sottes et en divine manière chez les filles spirituelles. Remarquable par sa chevelure couleur d'or pâle, Elle appartient à ce genre de femmes nommées sans doute en mémoire d'Ève les blondes célestes, et dont l'épiderme satiné ressemble à du papier de soie appliqué sur la chair, qui frissonne sous l'hiver ou s'épanouit au soleil, du regard en rendant la main jalouse de l'œil. Sous ses cheveux, légers comme des marabouts, et bouclés à l'anglaise, le front, que vous eussiez dit tracé par le compas tant il est pur de modèle, reste discret et calme jusqu'à la placidité, quoique lumineux de pensée. Mais quand et où pouvait-on en voir de plus uni, de plus netteté si transparente? Il semble comme une perle voir son orient. Les yeux d'un bleu tirant sur le gris, limpides comme des yeux d'enfant, en montraient alors toute la malice et toute l'innocence, en harmonie avec l'arc des sourcils à peine indiqué par des racines plantées comme celles faites au pinceau dans les figures chinoises. Cette candeur spirituelle est encore relevée autour des yeux et dans les coins, aux tempes, par des tons de nacre à filets bleus, privilège de ces teints délicats. La figure de l'ovale si souvent retrouvée par Raphaël pour ses madones se distingue par la couleur sobre et virginale des pommettes, aussi douce que la rose de Bengale, et sur laquelle les longs cils d'une paupière diaphane jetaient des ombres mélangées de lumière. Le col, alors penché, presque frêle, d'un blanc de lait, rappelle ces lignes fuyantes aimées de Léonard de Vinci. Quelques petites taches de couleur rousseur, semblables aux mouches du XVIIIe siècle, disent que Modeste est bien une fille de la terre et non l'une de ces créatures vues rêver en Italie par l'école angélique. Quelques fines et grasses, tout à la fois, ses lèvres un peu moqueuses, expriment la volupté. Sa taille, souple sans être frêle, n'effrayait pas la maternité comme celle de ces jeunes filles qui demande des succès à la morbide pression d'un corset. Le bassin, l'acier, le lacet épuraient et ne trebriquaient pas les lignes serpentines de cette élégance comparable à celle d'un jeune peuplier balancé par le vent. Une robe gris de perles ornée de passementeries couleur de cerise, à taille longue, dessinait chastement le corsage et couvrait les épaules, encore un peu maigre, d'une guimpe qui ne laissait voir que les premières rondeurs par lesquelles le cou s'attache aux épaules. À l'aspect de cette physionomie vaporeuse et intelligente tout ensemble, où la finesse d'un nez grec à narines roses, à méplat fortement coupé, jetait je ne sais quoi de positif, où la poésie qui régnait sur le front presque mystique était quasi démentie par la voluptueuse expression de la bouche, où la candeur disputait les champs profonds et variés de la prunelle à la moquerie la plus instruite, un observateur aurait pensé que cette jeune fille, à l'oreille alerte et fine que tout bruit éveillait, au nez ouvert au parfum de la fleur bleue de l'idéal, devait être le théâtre d'un combat entre les poésies qui se jouent autour de tous les levers de soleil et les labeurs de la journée, entre la fantaisie et la réalité. Modeste était la jeune fille curieuse et pudique, sachant sa destinée et pleine de déchasteté, la vierge de l'Espagne, plutôt que celle de Raphaël. Elle leva la tête en entendant Dumay dire à Exupère « Venez ici, jeune homme !» Et après les avoir vus causant dans un coin du salon, elle pensait qu'il s'agissait d'une commission à donner pour Paris. Elle regarda ses amis qui l'entouraient comme étonnés de leur silence et s'écria de l'air le plus naturel « Eh bien, vous ne jouez pas !» en montrant la table verte que la grande madame Latournelle nommait l'hôtel. « Jouons !» reprit Dumay qui venait de congédier le jeune Exupère. « Mets-toi là, Boucha !» dit madame Latournelle en séparant par toute la table le premier clerc du groupe que formaient madame Mignon et sa fille. « Et toi, viens là !» dit Dumay à sa femme en lui ordonnant de se tenir près de lui. Madame Dumay, petite américaine de 36 ans, essuya furtivement des larmes. Elle adorait Modeste et croyait à une catastrophe. Vous n'êtes pas gai ce soir, reprit Modeste. Nous jouons, répondit Gaudin, qui disposait ses cartes. Quelque intéressante que cette situation puisse paraître, elle le sera bien davantage en expliquant la position de Dumais relativement à Modeste. Si la concision de ce récit le rend sec, on pardonnera cette sécheresse en faveur du désir d'achever promptement cette scène et à la nécessité de raconter l'argument qui domine tous les drames. Dumais, Anne-François Bernard, né à Vannes, parti soldat en 1799 à l'armée d'Italie. Son père, président du tribunal révolutionnaire, s'était fait remarquer par tant d'énergie que le pays ne fut pas tenable pour lui lorsque son père, assez méchant avocat, eut péri sur l'échafaud après le 9 Thermidor. Après avoir vu mourir sa mère de chagrin, Anne vendit tout ce qu'il possédait et courut à l'âge de 22 ans en Italie au moment où nos armées succombaient. Il rencontra dans le département du Var un jeune homme qui, par des motifs analogues, allait aussi chercher la gloire en trouvant le champ de bataille moins périlleux que la Provence. Charles Mignon, dernier rejeton de cette famille à laquelle Paris doit la rue et l'hôtel bâti par le cardinal Mignon, eut dans son père un finaud qui voulut sauver des griffes de la Révolution la terre de la Bastille, un joli fief du comtat. Comme tous les peureux de ce temps, le comte de la Bastille, devenu le citoyen Mignon, trouva plus sain de couper les têtes que de se laisser couper la sienne. Ce faux terroriste disparut au 9 Thermidor et fut alors inscrit sur la liste des émigrés. Le comté de la Bastille fut vendu. Le château déshonoré vit ses tours en poivrière rasées. Enfin, le citoyen Mignon, découvert à Orange, fut massacré, lui, sa femme et ses enfants, à l'exception de Charles Mignon, qu'il avait envoyé lui chercher un asile dans les Hautes-Alpes. Saisi par ces affreuses nouvelles, Charles attendit dans une vallée du Mont-Genèvre des temps moins orageux. Il vécut là jusqu'en 1799, de quelques louis que son père lui mit dans la main à son départ. Enfin, 23 ans, sans autre fortune que sa belle prestance, que cette beauté méridionale qui, complète, arrive au sublime et dont le type est l'Antinous, l'illustre favori d'Adrien, Charles résolut de hasarder sur le tapis rouge de la guerre son audace provençale qu'il prit à l'exemple de tant d'autres pour une vocation. En allant au dépôt de l'armée à Nice, il rencontra le Breton, et devenu camarade, et par la similitude de leur destinée et par le contraste de leur caractère, ces deux fantassins burent à la même tasse, en plein torrent, cassèrent en deux le même morceau de biscuit, et se trouvèrent sergents à la paix qui suivit la bataille de Marengo. Quand la guerre recommença, Charles Mignon obtint de passer dans la cavalerie et perdit alors de vue son camarade. Le dernier des Mignons de la Bastille était en 1812 officier de la Légion d'honneur et major d'un régiment de cavalerie, espérant être renommé comte de la Bastille et fait colonel par l'empereur. Pris par les Russes, il fut envoyé comme tant d'autres en Sibérie. Il fit le voyage avec un pauvre lieutenant dans lequel il reconnut Anne Dumais, non décoré, brave mais malheureux comme un million de pousse-cailloux à épaulette de laine, le canevas d'homme sur lequel Napoléon a peint le tableau de l'Empire. En Sibérie, le lieutenant-colonel apprit, pour tuer le temps, le calcul et la calligraphie aux Bretons, dont l'éducation avait paru inutile au père Sévola. Charles trouva dans son premier compagnon de route un de ces cœurs si rares où il put verser tous ses chagrins en racontant ses félicités. Le fils de la Provence avait fini par rencontrer le hasard qui cherche tous les jolis garçons. En 1804, à Francfort-sur-Main, Il fut adoré par Bettina Wallendorf, une fille unique d'un banquier, et il l'avait épousée avec d'autant plus d'enthousiasme qu'elle était riche, une des beautés de la ville, et qu'il se voyait alors seulement lieutenant, sans autre fortune que l'avenir excessivement problématique des militaires de ce temps-là. Le vieux Wallenrod, baron déchu, la banque est toujours baronne. Charmé de savoir que le beau lieutenant représentait à lui seul les millions de la Bastille, approuva la passion de la blonde Bettina, qu'un peintre, il y en avait un alors à Francfort, avait fait poser pour une figure idéale de l'Allemagne. Wallenrod, nommant par avance ses petits-fils comte de la Bastille Wallenrod, plaça dans les fonds français la somme nécessaire pour donner à sa fille 30 000 francs de rente. Cette dot fit une très faible brèche à sa caisse vu le peu d'élévation du capital. L'Empire, par suite d'une politique à l'usage de beaucoup de débiteurs, payait rarement les semestres. Aussi Charles parut-il assez effrayé de ce placement, car il n'avait pas autant de foi que le baron allemand dans l'aigle impériale. Le phénomène de la croyance ou de l'admiration, qui n'est qu'une croyance éphémère, s'établit difficilement en concubinage avec l'idole. Le mécanicien redoute la machine que le voyageur admire, et les officiers étaient un peu les chauffeurs de la locomotive napoléonienne, s'ils n'en furent pas le charbon. Le baron de Wallendorf, Tustall Bartelstild, promit alors de venir au secours du ménage. Charles aima Bettina Wallenrod, autant qu'il était aimé d'elle, et c'est beaucoup dire. Mais quand un Provençal s'exalte, tout chez lui devient naturel en fait de sentiments. Et comment ne pas adorer une blonde échappée d'un bateau de tableau d'Albert Dürer, d'un caractère angélique et d'une fortune notée à Francfort? Charles eut donc 4 enfants, dont il restait seulement 2 filles, au moment où il épanchait ses douleurs au cœur du Breton. Sans les connaître, Dumais aima ces 2 petites par l'effet de leur sympathie, et si bien rendu par Charlet, qui rend le soldat père de tout enfant. L'aînée, appelée Bettina Caroline, était de 1805, l'autre Marie-Modeste de 1808. Le malheureux lieutenant-colonel, sans nouvelles de ses êtres chéris, revint à pied en 1814, en compagnie du lieutenant, à travers la Russie et la Prusse. Ses 2 amis, pour qui la différence des épaulettes n'existait plus, atteignirent Francfort au moment où Napoléon débarquait à Cannes. Charles trouva sa femme à Francfort, mais en deuil. Elle avait eu la douleur de perdre son père, de qui elle était adorée et qui voulait toujours la voir souriant, même à son lit de mort. Le vieux Wallenrod ne survivait pas au désastre de l'Empire. À 72 ans, il avait spéculé sur les cotons, en croyant au génie de Napoléon, sans savoir que le génie est aussi souvent au-dessus qu'au-dessous des événements. Ce dernier Wallenrod, des vrais Wallenrod Tustall Bartelstild, avait acheté presque autant de balles de coton que l'empereur perdit d'hommes pendant sa sublime campagne de France. « Je meurs dans le godon, » dit à sa fille ce père de l'espèce des gorions, en s'efforçant d'apaiser une douleur qui l'effrayait. « Et je meurs n'effort rien, personne, » car ce Français d'Allemagne mourut en essayant de parler la langue armée de sa fille. Heureux de sauver de ce grand et double naufrage sa femme et ses 2 filles, Charles Mignon vint à Paris, où l'empereur le nomma lieutenant-colonel dans les cuirassiers de la garde et le fit commandant de la Légion d'honneur. Le rêve du colonel, qui se voyait enfin général et comte au premier triomphe de Napoléon, s'éteignit dans les flots de sang de Waterloo. Le colonel, peu grièvement blessé, se retira sur la Loire et quitta Tours avant le licenciement. Au printemps de 1816, Charles réalisa ses 30 000 francs de rente qui lui donnèrent environ 400 000 francs et résolut d'aller faire fortune en Amérique, en abandonnant le pays où la persécution pesait déjà sur les soldats de Napoléon. Il descendit de Paris au Havre, accompagné de Dumay, à qui, par hasard assez ordinaire à la guerre, il avait sauvé la vie en le prenant en croupe au milieu du désordre qui suivit la journée de Waterloo. Dumay partageait les opinions et le découragement du colonel Char. Et Charles, suivi par le Breton, comme par un caniche, le pauvre soldat idolâtrait les deux petites filles, pensa que l'obéissance, l'habitude des consignes, la probité, l'attachement du lieutenant en ferait un serviteur fidèle autant qu'utile, et lui proposa donc de se mettre sous ses ordres au civil. Dumay fut très heureux en se voyant adopté par une famille où il vivrait comme le gui sur le chêne. En attendant une occasion pour s'embarquer, en choisissant entre les navires et méditant sur les chances offertes par leur destination, le colonel entendit parler des brillantes destinées que la paix réservait au Havre. En écoutant la dissertation de deux bourgeois, il entrevit un moyen de fortune et devint à la fois armateur, banquier, propriétaire. Il acheta pour 200 000 francs de terrain, de maison, et lança vers New York un navire chargé de soieries françaises achetées à bas prix à Lyon. Dumay, son agent, partit sur le vaisseau. Pendant que le colonel s'installait dans la plus belle maison de la rue Royale avec sa famille et apprenait les éléments de la banque en déployant l'activité et la prodigieuse intelligence des Provençaux, Dumay réalisa deux fortunes car il revint avec un chargement de coton acheté à vil prix. Cette double opération valut un capital énorme à la maison Mignon. Le colonel fit alors l'acquisition de la villa d'Ingouville et récompensa Dumay en lui donnant une modeste maison rue Royale. Le pauvre Breton avait ramené de New York avec ses cotons une jolie petite femme à laquelle plut avant toute chose la qualité de Français. Miss Grummer possédait environ 4 000 $, 20 000 francs, que Dumay plaça chez son colonel. Dumay, devenu l'alter ego de l'armateur, apprit en peu de temps la tenue des livres, cette science qui distingue, selon son mot, les sergents-majors du commerce. Ce naïf soldat, oublié pendant 20 ans par la fortune, se crut l'homme le plus heureux du monde en se voyant propriétaire d'une maison que la munificence de son chef garnit d'un joli mobilier, puis de 1 200 francs d'intérêt qui lut de ses fonds et de 3 600 francs d'appointements. Jamais le lieutenant Dumay dans ses rêves n'avait espéré situation pareille. Mais il était encore plus satisfait de se sentir le pivot de la plus riche maison de commerce du Havre. Madame Dumay, petite américaine assez jolie, eut le chagrin de perdre tous ses enfants à leur naissance, et les malheurs de sa dernière couche la privèrent de l'espérance d'en avoir. Elle s'attacha donc aux deux demoiselles Mignon, avec autant d'amour que Dumay, qui les eût préférées à ses enfants. Madame Dumay, qui devait le jour de ses cultivateurs habituée à une vie économe, se contenta de 2 400 francs pour elle et son ménage. Ainsi, tous les ans, Dumay plaça 2 000 et quelques cents francs de plus dans la maison Mignon. En examinant le bilan annuel, le patron grossissait le compte du caissier d'une gratification en harmonie avec les services. En 1824, le crédit du caissier se montait à 58 000 francs. Ce fut alors que Charles Mignon, comte de la Bastille, titre dont on ne parlait jamais, combla son caissier en le logeant au chalet où, dans ce moment, vivaient obscurément Modeste et sa mère. L'état déplorable où se trouvait Madame Mignon, que son mari laissa belle encore à sa cause dans la catastrophe à laquelle l'absence de Charles était due. Le chagrin avait employé 3 ans à détruire cette douce Allemande, mais c'était un de ces chagrins semblables à des vers logés au cœur d'un bon fruit. Le bilan de cette douleur est facile à chiffrer. Deux enfants, morts en bas âge, eurent un double sigite dans cette âme qui ne savait rien oublier. La captivité de Charles en Sibérie fut pour cette femme aimante la mort tous les jours. La catastrophe de la riche maison Wallendorf et la mort du pauvre banquier sur ses sacs vides fut, au milieu des doutes de Bettina sur le sort de son mari, comme un coup suprême. La joie excessive de retrouver son Charles faillit tuer cette fleur allemande. Puis la seconde chute de l'Empire, l'expatriation projetée, furent comme de nouveaux accès de fièvre. Enfin, 10 ans de prospérité continuelle, les amusements de sa maison, la première du Havre, les dîners, les bals, les fêtes du négociant heureux, les somptuosités de la villa Mignon, l'immense considération, la respectueuse estime dont jouissait Charles, l'entière affection de cet homme qui répondit par un amour unique à un unique amour, tout avait réconcilié cette pauvre femme avec la vie. Au moment où elle ne doutait plus, où elle entrevoyait un beau soir à sa journée orageuse, une catastrophe inconnue enterrée au cœur de cette double famille et dont il sera bientôt question, fut comme une sommation du malheur.